Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce 24 novembre, le Queensland va rouvrir ses frontières à toute la Nouvelle-Galles du Sud au début du mois prochain. Il n'y a pas de cas de coronavirus actif dans le Victoria pour la première fois depuis plus de 8 mois, depuis le 29 février plus précisément. Donald Trump donne son feu vert au processus de transition vers une administration Biden. Le Queensland va rouvrir ses frontières à toute la Nouvelle-Galles du Sud au début du mois prochain, après que le Greater Sydney ait enregistré 4 semaines sans nouveau cas mystérieux de COVID-19. La chef du Queensland, Anastasia Palaszczuk, déclare que les Victoriens seront également autorisés à entrer dans le Queensland à partir du 1er décembre, si cet État enregistre encore un autre jour sans aucune transmission communautaire demain, mercredi 25 novembre. Mais elle déclare que la décision d'ouvrir le Queensland à l'Australie du Sud reste en cours d'examen en raison du cluster de COVID-19 dans le nord d'Adélaïde.
We do want to encourage families to get together before Christmas. This has always been the aspiration of the National Cabinet. So from the 1st of December, if all things are going well for Victoria, tomorrow, both New South Wales and Victoria will be open for Queensland. Queensland families can travel there and vice versa from the 1st December.
Il n'y a pas de cas de coronavirus actif dans le Victoria pour la première fois depuis plus de 8 mois, depuis le 29 février plus précisément. Le ministère de la Santé a déclaré que le dernier patient restant un homme dans ses 90 ans, a été guéri du COVID-19 et a quitté l'hôpital lundi. Le Victoria a enregistré 25 jours consécutifs sans nouvelle infection ni de décès dû au coronavirus. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, affirme que même s'il s'agit d'un résultat positif, la pandémie est loin d'être terminée.
Even with this run of 0 days, no active cases, very strong testing performance, and people who are just doing the right thing, playing their part. Until a vaccine arrives, this is something that's going to be with us for the foreseeable future.
Le chef de l'Australie du Sud, Stephen Marshall, a déclaré que son État était bien placé pour maîtriser sa deuxième vague de COVID-19. Plus de 4000 personnes liées au cluster de Parafield dans le nord d'Adélaïde restent en quarantaine. Un seul nouveau cas de COVID-19 est signalé dans l'État, mais c'est une personne en quarantaine dans un hôtel qui est liée à un autre voyageur de l'étranger qui a été testé positif. Stephen Marshall affirme que l'État reste sur la bonne voie pour assouplir les restrictions mardi prochain, le 1er décembre.
South Australia is continuing to rise to the challenge of this particular cluster, and I believe that we are now in a very good position to stare down this second wave. This could have been a potentially catastrophic situation in South Australia, but the swift and decisive action taken following that unequivocal health advice has put us in a very good position.
La chef de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a admis qu'elle avait enfreint les règles de santé la semaine dernière en ne s'isolant pas, en attendant le résultat d'un test de coronavirus. Les directives de santé de la Nouvelle-Galles du Sud exigent que toute personne ayant subi un test de COVID-19 s'auto-isole jusqu'à ce qu'un résultat négatif soit reçu. Madame Berejiklian déclare qu'elle n'a présenté aucun symptôme avec le coronavirus et n'a pris le test qu'après avoir commencé à perdre la voix. Mais elle a admis sur Nine Network qu'elle a continué à travailler dans son bureau pendant le temps qu'il a fallu pour obtenir le résultat négatif.
I should have closed my door and not had anything to do with anybody, but I didn't because it all happened so fast. Yeah. And it was budget day. I thought I was doing the right thing because yeah. I was being overly cautious. And you know, in hindsight, I should have shut my door and not had any con for 90 minutes, but I didn't do that. I just acted normal. And I can't tell you what I did in that time because I can't remember. Okay. But I'm sure what I do know is I'd left my door open so people could have come in and out.
Le directeur de Qantas, Alan Joyce, a déclaré que les passagers ne seront pas autorisés sur les vols internationaux de la compagnie s'ils n'ont pas été vaccinés contre le Covid-19. Alan Joyce déclare que ce sera une politique non négociable lorsque les services de Qantas reprendront. Il a déclaré au Nine Network que d'autres chefs de compagnies aériennes avec lesquels il s'est entretenu autour du monde sont d'accord sur la nécessité de vacciner les passagers.
What we're looking at is how you can have a vaccination, a passport, an electronic version of it that certifies what the vaccine is it acceptable to the country you're travelling to. So there's a lot of logistics, a lot of technology that'll be needed to put in place to make this happen. But the airlines and the governments are working on this as we speak.
Un cycliste tué après avoir été heurté par un camion à Sydney et le deuxième livreur de nourriture a trouvé la mort dans la ville ces derniers jours. L'homme a été heurté par le camion à Redfern la nuit dernière, lundi, et est décédé sur les lieux. Il est le cinquième livreur connu pour être décédé en Australie depuis fin septembre. Le secrétaire de TWU, le syndicat Transport Workers Union, Michael Caine, a déclaré que les travailleurs de Uber Eats et d'autres plateformes de livraison continueraient de mourir si le gouvernement refusait d'agir.
It's time to put in place a system, a tribunal that has the flexibility to look into this work in the modern economy and put in place such rights and obligations as are necessary to protect workers and to hold these companies that are reaping billions in our economy to account.
AstraZeneca et l'Université d'Oxford publient les résultats du vaccin contre le Covid-19, des résultats efficaces à 70% selon eux. Précision de Simon Rosé pour Radio France Internationale.
Le candidat vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca et l'Université d'Oxford est efficace. À quel point? Cela dépend de son administration. L'essai clinique a permis d'étudier deux méthodes différentes, chacune nécessitant deux injections, une première puis un rappel. Dans un groupe, la quantité de vaccin était équivalente lors des deux piqûres, 62% d'efficacité. Dans le second groupe, la première dose était réduite de moitié, 90% d'efficacité. La moyenne est de 70,4, mais elle pourrait donc évoluer au fur et à mesure que l'essai clinique se poursuit. C'est en effet une de leurs fonctions, déterminer quel est le meilleur mode d'administration du candidat vaccin. Ces résultats sont préliminaires, encore une fois communiqués par voie de presse, on attend toujours les données complètes, mais AstraZeneca livre tout de même quelques détails. Aucune personne ayant reçu le candidat vaccin n'a développé de forme sévère du Covid-19. Mieux encore, ces premières données indiquent qu'il réduit la transmission du virus car le nombre de cas asymptomatiques a diminué, une information très importante que n'ont pas encore fourni Pfizer et Moderna à propos de leur vaccin.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson dévoile les grandes lignes du plan de sortie de confinement en Angleterre. Précision de Muriel Delcroix pour RFI.
Boris Johnson s'est efforcé de contrebalancer les espoirs générés par l'arrivée prochaine de vaccins contre le Covid par une attitude de prudence. Le Premier ministre a ainsi présenté son plan hivernal destiné, a-t-il expliqué, à protéger la population jusqu'au printemps en attendant l'arrivée imminente de la cavalerie scientifique. Cela signifie la réouverture mercredi 2 décembre de tous les magasins non essentiels, les salles de gym, les coiffeurs et les lieux de culte. Les activités sportives en extérieur pourront aussi reprendre et pour la première fois depuis le mois de mars, jusqu'à 4000 fans seront autorisés à revenir dans les stades dans les régions les moins touchées par la maladie. Les restaurants et les pubs pourront rouvrir également jusqu'à 23h et non plus 22h. Un coup de pouce pour l'économie durement affectée alors qu'approche pour les commerçants la période faste menant aux fêtes de fin d'année. Néanmoins, le retour des restrictions par région verra trois niveaux plus stricts qui seront dévoilés jeudi. Et Boris Johnson a prévenu que ce ne serait pas un Noël comme les autres et que les familles devraient considérer tous les risques avant de se réunir.
Aux États-Unis, Joe Biden a dévoilé hier, lundi, les premiers noms de son futur gouvernement, avec d'abord Anthony Blinken, 48 ans, qui devient secrétaire d'État. Blinken est parfaitement francophone. Éric de Salve, RFI.
Ce futur cabinet, c'est un peu l'anti-administration Trump, avec d'abord Anthony Blinken, 48 ans, qui devient secrétaire d'État. Blinken est parfaitement francophone, il connaît déjà ce poste crucial sous Barack Obama. Il était le bras droit du chef de la diplomatie. Sa nomination marque une rupture avec l'isolationnisme de Donald Trump, car Blinken est un partisan affiché du multilatéralisme avec les alliés traditionnels des États-Unis. Dans ce cabinet, on note aussi le retour d'un visage bien connu à l'international, celui de John Kerry, l'ancien secrétaire d'État de Barack Obama. Il devient l'émissaire spécial de Joe Biden pour le climat, Biden qui a promis de revenir dès le premier jour dans l'accord de Paris sur l'environnement. Et puis, une afro-américaine va devenir l'un des visages de cette nouvelle administration américaine, Linda Thomas-Greenfield, ancienne secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique et nommée ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Et puis, à la tête du renseignement national, Avril Haines, 51 ans, c'est la première femme nommée à ce poste. Enfin, autre symbole fort, après 4 années d'une politique farouchement anti-immigration, Alejandro Mayorkas, un immigré latino naturalisé est nommé à la tête du département de la sécurité intérieure. Bref, les temps changent, commente sur Twitter une proche conseillère de Joe Biden.
Et puis Donald Trump vient de donner le feu vert au processus de transition vers une administration Biden. Et puis déception pour l'Afrique après le sommet du G20 du week-end dernier. Pas d'annonce concernant la dette africaine. Précision d'Olivier Roger pour RFI.
Difficile pour les pays endettés de ne pas être déçus par le sommet du G20. La question de la dette y a été à peine abordée. Pourtant, une semaine auparavant, les ministres des Finances annonçaient en grande pompe un accord qualifié d'historique. Pour la première fois, en effet, tous les créanciers, y compris la Chine, acceptaient de travailler ensemble. Ce premier pas devait être suivi d'autres annonces, espérait-on, mais il faudra encore patienter. Car si un groupe de 29 créanciers ont bien décidé qu'ils allaient collaborer pour rééchelonner ou annuler les dettes de certains pays, ils sont aussi tombés d'accord sur le fait de procéder au cas par cas. Et ce travail, qui s'annonce complexe et fastidieux, doit encore démarrer. Le cas par cas plutôt que la règle commune est la solution qui heurte le moins les intérêts des grands pays et qui permet de séduire les créanciers privés qu'il est impossible de contraindre. Le G20 n'est pas non plus revenu sur une idée énoncée par Emmanuel Macron et Kristalina Georgieva lors du Forum de Paris pour la paix. Le président français et la directrice générale du FMI avaient émis la possibilité de mutualiser les droits de tirage spéciaux, cet argent créé par le FMI et qui permet aux pays d'emprunter. L'idée, pourtant bien accueillie par les économistes africains, est pour l'instant restée à l'état de projet.
La commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 5 ans le président de la Confédération africaine de foot pour détournement de fonds. Explication d'Antoine Grenier pour RFI.
Un divorce sur fond de porte qui claque. Le 2 février dernier, Gianni Infantino quitte le visage fermé le centre national du football marocain où se déroule le comité exécutif de la CAF. Le président de la FIFA s'en va, furieux que la mission de son ancienne secrétaire générale, Fatma Samoura, n'ait pas été prolongée par le bureau directeur de la Confédération africaine. 6 mois plus tôt, la Sénégalaise était arrivée, officiellement, pour accélérer le processus de réforme de la CAF. Une mise sous tutelle grinçait alors officieusement des membres de la Confédération et un premier point de rupture entre Hamad et Infantino. Pourtant, en 2017, le second avait accordé un soutien discret mais décisif au premier dans sa candidature contre Issa Hayatou. Fort de cet appui, après son élection, Hamad s'était lancé dans de vastes réformes menées tambour battant, décalant la CAN à juin-juillet et la faisant passer à 24 équipes dès ses premiers mois de mandat. Des changements importants, mais pas suffisants aux yeux de la FIFA. Infantino, très impliqué dans les dossiers africains, plaidant pour la création d'une Super Ligue africaine à 20 clubs pour remplacer la Ligue des Champions, ou pour une CAN tous les 4 ans, proposition faite en février dernier à Rabat, un peu moins de 10 mois avant le divorce entériné ce lundi.
L'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, affirme qu'un ralentissement de l'activité industrielle liée à la pandémie a réduit les émissions de polluants et de gaz à effet de serre, mais n'a pas réduit leur niveau dans l'atmosphère. De nombreux scientifiques s'attendent à la plus forte baisse annuelle des émissions de carbone cette année. Le chef de la division de la recherche atmosphérique et environnementale de l'OMM, la docteure Oksana Tarasova, déclare que le changement résultant des concentrations de dioxyde de carbone qui contribue au réchauffement climatique ne sera pas différent des fluctuations annuelles normales.
Despite the fact that it looked like that the world stands still, we get only the decrease of 4-7% in emissions which we produce. So our whole economy and our consumption partners actually wire us to the extremely high emissions.
Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 33 degrés. Adélaïde, 25. Melbourne, 20. Hobart, 21. Canberra, 23. Sydney, 23 également. Brisbane, 31. Cairns, 33. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 36 degrés. Un rappel des grands titres de ce 24 novembre, le Queensland va rouvrir ses frontières à toute la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria au début du mois prochain. Il n'y a pas de cas de coronavirus actif dans le Victoria pour la première fois depuis plus de 8 mois, depuis le 29 février plus précisément. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.